cinéma suisse tout de suite avec la sortie romande mercredi de Dawn, l'aube, le quatrième long métrage du réalisateur Romet Vider. Il s'agit d'un film tiré d'un roman du prix Nobel de la paix Elie Wiesel. Voici un extrait.
There's a new family waiting. I'm part of it. It's called the Hebrew State. We need translators, just as we need planners. Just like we will need killers.
Katzin Angli. Dankeschön.
Romet Vider, bonjour à vous.
Bonjour.
Dans ce court extrait de votre film Dawn, qui sort dès mercredi sur les écrans romans, on est à Paris en 1947. C'est la rencontre de Gad, le jeune leader israélien charismatique, avec le très jeune Elisha, qui va être enrôlé dans un groupe de combattants de la résistance. Et cet extrait, en fait, est un flashback qui intervient dans le huis clos psychologique que vous nous offrez dans ce film. Je me permets juste de donner le contexte, en fait, général du film pour qu'on sache bien où on est, ce qui va se passer. Nous sommes donc en 1947. La Palestine est sous mandat britannique. Les sionistes combattent pour la création d'Israël, l'État juif. Et un terroriste juif vient justement d'être condamné à mort par les autorités anglaises. Par représailles, un officier britannique est kidnappé. Et ce groupe de combattants de la résistance passe justement la nuit à attendre les résultats de la fameuse négociation. Alors si à l'aube, les Britanniques pendent leur ami, l'un des résistants devra exécuter l'officier anglais retenu en otage. Et dans ce huis clos nocturne, on va suivre une sorte d'initiation, et puis ou des questions de loyauté, d'éthique que pose aussi cette initiation. Et cette initiation, il s'agit de celle du jeune Elisha, à qui il va être demandé d'exécuter l'officier anglais si les choses tourne mal. Alors ce livre d'Elie Wiesel, comment est-ce qu'il atterrit entre vos mains, Romet Vider?
Oui, effectivement, c'est déjà longtemps que je l'avais lu. Et puis j'étais en train de faire des recherches sur la résistance, en fait. Parce que si vous suivez un peu mon parcours, vous voyez par exemple dans le film Absolute, c'était aussi la résistance.
De 2004, c'était une résistance, ouais.
Voilà, c'est une résistance beaucoup plus... enfin, moins armée, plus locale, à Genève.
Altermondialiste.
Voilà, exactement. Mmh. Et donc là, j'avais envie d'aller un pas plus loin et voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est amené à tuer un autre être humain.
À quel moment vous décidez justement que vous en ferez un film? Parce que d'après ce que j'ai lu, il a fallu, je crois, plus de 10 ans pour le réaliser, ce film.
Oui, disons, l'envie même de faire le film, il est apparu assez rapidement. Mmh. D'abord, dans un premier temps, ça m'a semblé un peu étrange d'adapter ce livre parce que...
C'est un monologue.
Oui, c'était surtout un monologue intérieur, effectivement. Mais aussi, on est du côté des sionistes qui se battent pour leur État. Et puis actuellement, on voit plutôt le contraire.
Exactement, oui.
Ce sont des Palestiniens qui se battent pour leur État. Mais finalement, ça m'a semblé justement intéressant qu'il y a cet effet miroir. Et après, ça a pris simplement beaucoup de temps pour déjà négocier les droits du livre, pour le financement, enfin pour l'écriture, et puis pour la coproduction internationale. Tout ça, c'était extrêmement complexe. Et bon, voilà. Enfin.
Ce qu'il faut aussi ajouter, et ça, c'est très intéressant, Romet Vider, c'est que le film est en hébreu. C'était une nécessité pour vous.
Alors effectivement, la question de la langue, elle s'est posée aussi. Dans un premier temps, je pensais faire un film en français, tout simplement parce que le livre a été écrit en français à l'époque. Après, j'ai collaboré avec le scénariste Billy McKinnon, qui lui avait écrit le scénario en anglais. Donc on s'est dit, bon, alors faisons-le en anglais, puisque de toute façon c'est un thème international et ça serait bien d'avoir...
Ce sera exportable du coup aussi, voilà. Plus facilement, ouais.
Exactement. Et puis après, finalement, on s'est dit, mais non, on va quand même pas faire parler... les combattants qui se battent contre les Anglais dans la langue de leur ennemi. Donc, on arrive à la conclusion qu'on essaie plutôt de prendre les langues qui ont été vraiment utilisées à l'époque.
Et vous parlez l'hébreu ?
Pas vraiment. J'ai pris des cours, évidemment, pour avoir un peu un sentiment de la langue. Mais ben non, je ne le parle pas. Mais comme tout le monde parle l'anglais en Israël, donc c'était quand même assez facile.
Mais je me suis demandé justement comment vous alliez diriger, parce que vous avez dirigé de manière très très précise ces comédiens, ces acteurs.
Oui, mais disons ça vient aussi des répétitions qu'on a faites en amont avec eux. Donc on s'est mis très clairement, on a très bien établi les personnages. On a beaucoup discuté sur la traduction, évidemment parce que moi je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Donc c'est eux qui m'ont dit en anglais qu'est-ce qui était là marqué en hébreu. Et puis quelquefois, on a modifié encore, durant la répétition, en fait, les textes qu'ils allaient dire. Après, j'ai travaillé avec une assistante qui était parfaitement bilingue, et puis c'est elle, finalement, qui a vérifié que tous les dialogues soient dits comme il faut, qu'aucune phrase est oubliée, tout ça. Et puis, du coup, moi, j'ai pu me concentrer sur le jeu physique, en fait.
C'est ça qui est très intéressant, parce qu'un huis clos, c'est un film qui repose surtout sur les acteurs plutôt que sur un décor. C'est vraiment une gageure pour la direction d'acteurs. Et moi, j'ai été très, très impressionnée, Romain Dvider, par la façon dont vous avez mené la dynamique du huis clos. J'ai même eu le sentiment parfois qu'on était dans une sorte de mise en scène presque chorégraphique. On a l'impression qu'il y a une sorte de ballet comme ça qui se passe.
Oui, effectivement, c'était un peu ça. C'était un peu une chorégraphie. J'ai réfléchi moi-même exactement à quel moment, quelle personne est où. Et puis après, simplement, on a fait la mise en scène en faisant toute la scène en une fois d'abord pour vérifier si mes positions étaient justes par rapport à eux. Et quelquefois, on a modifié un peu, évidemment. Mais après, on avait mis quasiment le tout en place, comme on ferait aussi pour un théâtre. Et après seulement, on a commencé avec le tournage, évidemment, axe par axe. Mais d'abord, on avait établi tous les déplacements et tout. Parce qu'il y a toujours 10 000 choses à faire. Il y a quelqu'un qui se lève, qui ouvre le rideau, qui allume la lumière. Et tout ça, ça doit être cohérent après dans l'histoire. Parce que dans le plan, après, il faut que la lumière soit allumée parce qu'elle était allumée avant. Enfin, c'était un peu un casse-tête à ce niveau-là.
Romain Dvider, dans ce huis clos, à part le jeune Elisha qui est réchappé de l'Holocauste, on a trois hommes et une femme, des personnages qui sont extrêmement typés. Est-ce que vous nous feriez les présentations, s'il vous plaît?
Oui, alors il y a d'abord effectivement le chef du groupe qui
Gad.
Est Gad. Lui, c'est quelqu'un de très charismatique et tout. Et puis simplement, lui, ce qui est un peu spécial pour lui, c'est que le condamné à mort, c'était un de ses meilleurs amis. Donc lui, il est spécialement touché par cette négociation. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est finalement assez doux avec Elisha. Mais il essaie quand même de le convaincre que c'est une bonne chose, la cause, et surtout la manière comme ils le font. Voilà, donc ça, c'est le Gad. Après, on a Ilana, qui est donc la femme ou la copine à Gad, mais qui était aussi à Paris avec Gad pour recruter Elisha. Et comme elle est d'origine française, elle parle français, donc entre Gad et Ilana, il y a cette langue commune. Voilà, cette langue commune qui les rapproche un peu plus. Et aussi, pour Elisha, c'est un peu aussi une femme où il tombe amoureux.
C'est aussi une initiation, il devient grand, enfin, il devient adulte aussi hein, durant cette nuit, de certaine façon.
C'est clair, Elisha, ouais. Pour Elisha, c'est vraiment une nuit initiatique sur plusieurs niveaux. C'est le plus jeune de tout le groupe. C'est le seul, comme vous l'avez dit, qui a rescapé de la Shoah. Et puis, c'est la première nuit donc, qu'il passe maintenant en tant que véritable combattant.
Et puis encore deux hommes qui sont là, un qui est un homme très religieux, et puis son comparse qui est un personnage qui fait des pompes tout le temps et qui est assez violent avec le jeune Elisha.
Oui, effectivement, c'est un peu le méchant costaud qui lui, il est un peu impatient. Lui, dès le début, il se dit, mais de toute façon, ce beau garçon, il ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. Moi, je le fais moi, disons, si jamais il n'y a pas de problème. Donc lui, il a un peu ce rôle-là.
Oui. Romain Dvider, justement, il y a une phrase qui résonne dans la bouche du jeune Elisha lorsqu'il rencontre pour la première fois le prisonnier britannique qui est dans la cave, en fait, de l'appartement où se cachent ces terroristes. Eh bien, Elisha dit « Dieu est un terroriste ». Et c'est une phrase qui apparaît aussi sur l'affiche de votre film. Au-delà de la formule qui marque, qu'est-ce que vous voulez exprimer par là?
Bon, déjà, il y avait pas tout à fait cette phrase-là, mais une phrase assez proche dans le livre d'Elie Wiesel aussi. Donc ça m'a permis... de la placer sans trop de me faire des soucis. mais je trouve intéressant, en fait, parce qu'évidemment, c'est toujours une question de point de vue. Du moment où vous êtes dans leur position à eux, vous êtes des combattants de liberté, vous vous battez pour votre État et tout. Et puis, du moment où vous êtes dans la position des Anglais, ce sont des terroristes. Mais en même temps, tous ces différents groupements de terroristes, enfin de résistants à l'époque, en 1947, qu'il y avait, ils étaient tout à fait conscients qu'ils se battent avec des armes de terroristes, parce qu'ils ont fait des attaques contre les trains, contre les hôtels, contre des banques. En fait, ils ont vraiment fait ils ont utilisé des moyens de terroristes. Donc, ils ont eux-mêmes, ils se sont appelés des terroristes, et du coup, c'est pour ça qu'il dit cette phrase.
Aujourd'hui, justement, vous le disiez tout à l'heure, Romain Dvider, ce sont les Palestiniens qui luttent pour récupérer la Palestine. La situation s'est inversée. Quelle leçon à tirer de cette histoire, de l'histoire, finalement?
Alors moi, ça c'est effectivement c'est une deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé avec ce livre, c'est qu'on fait automatiquement le lien avec l'actualité. Et puis c'est clair que 1947 aussi c'est un moment clé dans l'histoire de ce conflit. C'est juste avant la création de l'État d'Israël, et puis c'est dans cette année-là où l'ONU a voté en fait la partition de la Palestine. Et c'est à ce moment-là, je crois, que les problèmes qu'on a actuellement ont été finalement créé.
Votre film est sorti à Soleure en janvier dernier. Quelles ont été les premières réactions? Qu'est-ce que vous attendez justement avec la sortie de votre film dans les salles romandes dès mercredi?
Mais je ne sais pas, je n'ai pas des attentes comme ça préétablies. Je me réjouis de le présenter, et puis je suis curieux justement comment les gens le lisent. Je sais qu'il y a deux lectures en général. Mmh. C'est celle qui est plutôt liée au dilemme d'Elisha. Et puis il y a une deuxième lecture, mais qui du coup est un peu plus intellectuelle parce que ce n'est pas vraiment dans le film, c'est justement le contexte historique. Mmh. Mais ça, chacun lire comme il le sent.
Oui, très bien. En tout cas, j'invite les auditeurs, auditrices d'Espace 2 à venir voir votre film Dawn, qui sort ce mercredi sur les écrans romans. Belle journée à vous, Remède Vidal, et bon succès pour ce film. Au revoir.
Merci, au revoir.